journal est présenté par Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. La tempête Eleanor se dirige vers le sud-est. Elle a fait des victimes, au moins un mort et une quinzaine de blessés. 110 000 foyers sont encore privés d'électricité. Les Français évoluent sur les questions de procréation et de fin de vie. Selon un sondage IFOP publié par la Croix, 64% des Français approuveraient l'autorisation de la gestation pour autrui pour raison médicale. En Iran, le chef des gardiens de la Révolution annonce la fin de la sédition. Il assure qu'il n'y a pas eu plus de 15 000 fauteurs de troubles dans le pays. Le téléphone rouge rétabli entre les deux Corées, malgré les railleries de Donald Trump, Nord et Sud vont d'abord discuter de la participation de la Corée du Nord aux Jeux Olympiques de Pyeongchang. On commence ce journal par un point sur les conséquences du passage d'Eleanor. La tempête traverse la France depuis cette nuit. Il est encore tôt pour faire le bilan des dégâts causés par les bourrasques de vent et par les averses, mais on sait déjà qu'il y a eu au moins un mort, un skieur victime de la chute d'un arbre dans la station du Morillon en Haute-Savoie. Et Valentine Joubin, il y a aussi des blessés graves.
Oui, 4 personnes ont été grièvement blessées. En Seine-et-Marne, près de Paris, où le vent a soufflé ce matin à plus de 100 km/h, un homme de 69 ans est tombé du toit de sa maison. Il s'est sérieusement blessé les côtes en voulant, semble-t-il, remettre des tuiles sur sa toiture. Dans le Haut-Rhin, une femme de 78 ans a été blessée par la chute d'un bloc de ciment. Les deux autres accidents sont celui d'un motard qui a foncé dans un arbre en Eure-et-Loir et une personne blessée dans sa voiture par la chute d'un arbre dans l'Essonne. L'image de cette tempête Eleanor, ce sont aussi les vagues submersions, plusieurs digues qui se rompent dans le Calvados, des restaurants, des magasins, des halls d'immeubles inondés. Le vent perturbe aussi de nombreux transports. Depuis ce matin, il n'y a plus de TER en Normandie, sauf sur la ligne Paris-Rouen. En région parisienne, le trafic des RER B, C et D sont perturbés. En Corse, les aéroports de Bastia, Calvi et Figaré sont fermés jusqu'à la fin de journée. Un incendie a par ailleurs été déclenché hier soir dans le nord de l'île, toujours à cause de la tempête. Dans les Alpes, de nombreuses stations de ski sont fermées en partie ou totalement. Le risque d'avalanche y est à son maximum. Ajoutons à ce tableau les 110 000 désormais foyers toujours privés d'électricité. Ils étaient 225 000 à la mi-journée, principalement dans le nord. Eleanor poursuit désormais sa route vers le sud-est.
Valentine Joubin, nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, constate Édouard Philippe. Après un séminaire gouvernemental à l'Élysée, le Premier ministre a dit sa volonté et celle d'Emmanuel Macron de poursuivre l'élan de transformation du pays engagé depuis l'élection présidentielle. Le chef du gouvernement promet de garder le rythme des réformes au cours du semestre à venir, Stéphane Robert.
C'était le 4e séminaire gouvernemental organisé depuis le début du quinquennat. Édouard Philippe en a dressé un compte-rendu en début d'après-midi en rappelant d'abord quel en était l'objet.
Régler la musique gouvernementale, de faire en sorte que chacun des ministres ait parfaitement à l'esprit sa partition, tel le soliste membre d'un orchestre, mais qu'il ait aussi parfaitement conscience de ce que doivent jouer les autres. Et c'est l'objectif de ces séminaires.
Ensuite, il s'est livré à un exposé, catalogue des différentes réformes qui seront préparées et présentées d'ici l'été. Loi logement, loi sur les entreprises de Bruno Le Maire, réforme de l'assurance chômage et de la formation professionnelle. Et puis il a donné quelques précisions sur le grand projet social qu'Emmanuel Macron a dit vouloir mettre en œuvre à l'occasion des vœux du Nouvel An.
D'abord, une idée simple, notre projet social, c'est d'abord notre politique de l'emploi. Nous allons, comme nous avons déjà eu l'occasion de l'évoquer, déployer le plan d'investissement dans les compétences plutôt que de multiplier les emplois aidés. Nous allons, je l'ai dit, transformer radicalement l'apprentissage et la formation professionnelle.
En réalité, donc rien de neuf sous le soleil, en dehors de ce qui avait déjà été annoncé. Ce séminaire, dans les faits, a autant pour objet de coordonner l'action du gouvernement que de faire la pédagogie de ce qui sera mis en œuvre en direction des médias et de la population, de préparer les esprits en quelque sorte. Ceci afin de continuer à répéter et à s'appuyer sur ce message simple qui fait la force de l'exécutif et d'Emmanuel Macron depuis son élection et qui est « nous faisons ce que nous avions dit que nous ferions ». Autrement dit, la pédagogie de l'action fait partie intégrante de l'action du nouveau pouvoir en place.
Et l'exécutif confirme le rétablissement d'une circonscription nationale unique pour les élections européennes de 2019. Le projet de loi a été examiné ce matin en Conseil des ministres. Najat Vallaud-Belkacem ne veut pas prendre la direction du Parti socialiste. Ses proches l'a poussé à s'engager dans la bataille. Eh bien, c'est non. Je n'ai jamais voulu d'une vie réduite à la politique, explique l'ancienne ministre de l'Éducation nationale dans un entretien à l'Obs. Je veux vraiment réfléchir, travailler et comprendre d'autres mondes que le seul monde politique. Najat Vallaud-Belkacem s'apprête à diriger une collection d'essais chez Fayard. C'est une petite révolution dans le monde financier européen. La directive européenne des marchés financiers, MiFID 2, entre en vigueur aujourd'hui. 10 ans après la crise financière des subprimes, elle vise à permettre une plus grande transparence sur les transactions boursières. Les directives créent avant tout de nouveaux instruments de contrôle. Toutes les transactions boursières doivent être déclarées et traçables, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Mais il ne faut pas trop rêver, prévient Anne Bellavoine, vice-présidente de la Société française des analystes financiers. Cette régulation est intéressante, notamment pour les petits investisseurs, mais elle ne suffira pas à empêcher une nouvelle crise financière.
Les crises boursières viennent rarement de la réglementation, ou plutôt elles sont rarement évitées par la réglementation. En général, les réglementations viennent après les crises boursières. Donc la prochaine crise boursière, je ne sais pas d'où elle viendra, je suis incapable de vous le dire, mais je ne pense pas que ce soit MiFID qui l'empêchera. D'abord, je vous rappelle que MiFID ne concerne que les marchés européens. Ça veut dire que vous en excluez tous les marchés, en particulier américain, qui est quand même le premier marché au monde et de très loin, le plus important, le plus dominant, et sans parler de tous les marchés asiatiques qui ont énormément grossi aussi et pris en importance depuis quelques années, en particulier les marchés chinois. Donc je ne crois pas que MiFID empêchera d'une façon ou d'une autre une crise boursière qui peut venir par les autres marchés de toute façon. Enfin, je ne vois pas comment. De toute façon, quels que soient les efforts qu'on fera dans le domaine de la réglementation, même s'ils améliorent les choses, vous aurez toujours de l'inventivité financière et vous aurez toujours, de toute façon, des pays qui ne seront pas soumis à ces règles-là. Tant qu'on n'aura pas un gouvernement, entre guillemets, mondial des marchés, ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui et de très loin, comment voulez-vous que les choses soient totalement efficaces et réglées ?
Anne Bellavoine de la Société française des analystes financiers répondait à Benjamin Delisle. À 2 semaines de l'ouverture des états généraux de la bioéthique, un sondage montre l'évolution de l'opinion concernant la procréation et la fin de vie. D'après ce sondage IFOP, réalisé pour le journal La Croix et le Forum européen de bioéthique, 71% des Français sont favorables à la légalisation de l'euthanasie. Pour 60% des personnes interrogées, le recours à l'insémination artificielle doit être autorisé pour les couples de femmes souhaitant avoir un enfant. Et chiffre encore plus frappant, 64% des Français se disent pour l'autorisation du recours à une mère porteuse en France, pour raison médicale. 18% défendent même la GPA pour tous ceux qui la demandent. Le maire Les Républicains d'Antibes, Jean Léonetti, connu pour son implication dans les questions d'éthique, exprime de grandes réserves au sujet de ce sondage.
Lorsque l'on pose la question, par exemple, des mères porteuses à une société comme la nôtre, les femmes s'imaginent ayant besoin d'un recours à une mère porteuse. Elles s'imaginent jamais être mère porteuse. Or, si demain on légalisait les mères porteuses, on n'aurait presque plus besoin de faire de loi bioéthique. Ça voudrait dire que tout est permis, puisque ça voudrait dire que la femme peut être un objet, que l'enfant peut être abandonné à la naissance, que finalement le génétique prime sur l'éducatif. Enfin, ça veut dire que toutes les grandes règles de la bioéthique sont bafouées, y compris l'indisponibilité du corps de la femme. Donc je pense que c'est des réactions, et quand on pose des questions complexes, sur des questions complexes, des questions simples, eh bien, par oui ou par non, eh bien, on finit par avoir des réponses qui sont quelquefois aberrantes. Je pense que les Français sont opposés à la gestation pour autrui. Et nous verrons que dans les débats qui vont s'ouvrir, nous avons voulu qu'il y ait des débats des états généraux de la bioéthique avant toute loi bioéthique. C'est bien pour éviter cette opinion sondagière qui ne correspond en réalité pas à une pensée. Tout ce qui est possible techniquement et scientifiquement, est-il souhaitable humainement? Et la réponse est non. On sait très bien qu'il y a des choses qu'on sait faire, mais qu'on ne doit pas faire.
Jean Léonetti, invité du journal de 13h de France Inter. Nous sommes en ligne avec la sociologue Irène Théry, spécialiste de la famille et de la filiation. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous ne partagez pas les réserves de Jean Léonetti. Pour vous, les chiffres cités dans ce sondage correspondent à la réalité?
Ce sondage confirme les sondages qui, année après année, montre une évolution très constante de l'opinion et des attentes des Français. Donc je ne suis pas du tout surprise par le sondage. Le directeur de l'IFOP, c'est quand même un grand institut de sondage, a lui-même commenté ces chiffres en disant c'est une tendance de fond qu'on aperçoit. Donc c'est ce qui est étonnant, c'est que quelqu'un comme Jean Léonetti, quand les sondages ne lui conviennent pas, ose mettre en cause leur sérieux ou leur scientificité, oui.
Alors il dit la question est complexe, on veut y répondre trop simplement?
Les questions sont complexes, mais les gens sont capables de savoir répondre à une question. Excusez-moi, mais...
Vous avez un chat dans la gorge.
Ils sont capables de répondre à une question qu'ils comprennent. De plus en plus, les engendrements avec donneurs sont compris par les Français, qui les voient autour d'eux, qui voient des documentaires, qui écoutent des émissions, qui parlent en connaissance de cause, et il y a une véritable transformation des valeurs, et c'est cela qu'il faut entendre. Ce qui m'inquiète plutôt, c'est qu'on présente les états généraux de la bioéthique comme une sorte de d'arme de guerre contre l'opinion des Français. Ça, c'est très inquiétant de la part d'un responsable politique.
Est-ce qu'en France, aujourd'hui, on considère qu'accéder à la parentalité est un droit comme un autre ?
Non, je pense pas qu'on considère que c'est un droit, mais on considère que le désir d'enfant, il n'y a pas des gens qui sont plus ou moins légitimes, que vouloir fonder une famille, s'engager pour la vie envers un enfant, c'est quelque chose de tout à fait remarquable, et que quand on peut, comme c'est le cas aujourd'hui, ben, permettre ce désir, ce souhait soit réalisé, c'est une très belle chose, et donc il n'y a pas besoin de parler de droit à l'enfant. C'est simplement une façon de disqualifier les parents dont on ne veut pas, voyez. Or, les Français, aujourd'hui, ne veulent plus faire de discrimination entre les parents a priori. Ce qui compte pour eux, c'est l'engagement envers l'enfant, l'attitude qu'on a par rapport à son histoire, par rapport aux responsabilités qu'on prend, à la clarté des choix qu'on fait. C'est ça qui leur paraît important, je crois.
Et on pourrait mettre en œuvre une GPA sans marchandisation des corps, puisque c'est une inquiétude majeure.
Bien sûr, non. Je pense que la GPA n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est déjà de donner une filiation, de transcrire la filiation des enfants nés de GPA à l'étranger. Mais ce qui est important, ce qui est à l'ordre du jour, c'est d'ouvrir un débat serein et informé qui ne mélange pas tout. Vous voyez, Jean Leonetti mélange tout. Il y a des trafics de ventre dans le monde, comme il y a eu des trafics d'enfants en matière d'adoption, vous voyez, et on n'a pas confondu l'adoption internationale avec les trafics d'enfants. Eh bien, il faudra qu'on en vienne à ne pas confondre la GPA éthique qui existe, que j'ai rencontrée en tant que chercheuse, et des trafics de ventre qui existent aussi, bien entendu.
Merci Irène Théry pour ce point de vue. Je rappelle que la révision des lois de bioéthique est prévue à l'automne. Le Canard enchaîné met en cause le rôle des autorités sanitaires dans l'affaire des laits infantiles contaminés de l'usine Lactalis. Selon l'hebdomadaire, 3 mois avant que le scandale n'éclate, l'usine Lactalis de Cran, en Mayenne, avait fait l'objet d'une inspection sanitaire par une instance de contrôle rattachée au ministère de l'Agriculture. Elle n'a alors détecté aucune anomalie, alors que l'usine incriminée était déjà infectée depuis plus de 6 mois. 2 contrôles internes avaient mis en évidence la présence de salmonelles, Sandrine Eto'o à Andegg.
En août et en novembre dernier, des salmonelles sont repérées sur du matériel de nettoyage et sur les carrelages lors d'un contrôle interne à l'usine Lactalis de Cran. Lors de leur visite, en septembre, les vétérinaires de Mayenne, eux, n'ont rien vu. En même temps, l'entreprise n'est pas obligée de communiquer sur ses contrôles internes. C'est révoltant, réagit Quentin Guillemin, président d'une association de victimes. C'est la plainte de ce père de famille qui a déclenché le 26 décembre une enquête pour notamment mise en danger de la vie d'autrui.
C'est la stupéfaction et l'indignation en même temps. On ne décolère pas. On mesure à quel point il y a effectivement un problème sur ces fameux contrôles, hein, que ce soit d'ailleurs de la part de Lactalis ou de la part de l'État. Donc, il y a une opacité extrêmement grave des services de l'État.
Ce contrôle sanitaire ne portait que sur un atelier de l'usine de Cran, pas sur l'appareil de production du lait, explique le préfet de Mayenne, Frédéric Vaux.
Une partie de l'activité du site qui avait été mise en service au mois de juillet 2017, notamment un atelier de mélange à sec. À ce moment-là de l'année, nous n'étions pas informés de tests positifs par rapport à des prélèvements opérés dans l'environnement des tours de séchage.
Le préfet confirme aussi que la partie production de poudre de lait et de céréales est à l'arrêt complet. Seule la partie fromagère fonctionne encore.
Le président iranien espère voir les manifestations prendre fin dans quelques jours. Hassan Rouhani l'a confié à son homologue turc lors d'un entretien téléphonique. Le chef des gardiens de la révolution, lui, va beaucoup plus loin. Il annonce, je cite, la fin de la sédition. Dans les manifestations qui se succèdent depuis la semaine dernière contre le pouvoir et les difficultés économiques, le général Mohammad Ali Jafari estime qu'il y a eu au maximum des rassemblements de 1500 personnes et ajoute-t-il, le nombre des fauteurs de troubles n'a pas dépassé 15 000 personnes sur l'ensemble du pays. Des propos qui ne rassurent pas du tout François Nicolo, ancien ambassadeur de France en Iran.
Il faut que le gouvernement fasse des gestes en matière de prix, en matière d'approvisionnement, produits de nécessité. J'espère que Rouhani y parviendra. Il faut apporter un début de réponse. On peut écraser ce qui se passe. Le rapport de force est absolument inégal entre quelques dizaines de milliers au maximum de manifestants et un régime qui dispose de tout l'appareil de la force et qui dispose quand même de troupes de soutien aguerris et aisément mobilisables. Donc, les pauvres gens qui manifestent, qui expriment leur colère, n'ont aucune chance, hein, par la force, par la violence, d'arriver à faire bouger les choses. Mais ce gouvernement doit écouter, c'est un appel au secours, pour, au fond, ce qui se passe en ce moment. Il doit écouter cet appel au secours. Je pense que Rouhani aimerait faire des choses. Il est quand même faiblement capable d'agir, hein. Il est quand même paralysé par un système complexe et par, à l'intérieur du régime, tout un groupe de conservateurs radicaux qui ne souhaitent pas qu'ils réussissent précisément, qui sont d'ailleurs peut-être à l'origine des premières manifestations, si elles, même si ces manifestations leur ont depuis largement échappé.
L'ancien ambassadeur de France en Iran, François Nicolau, répondait à Valérie Krova et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme appelle les autorités iraniennes à respecter les droits des manifestants et à donner aux forces de l'ordre des consignes de modération. Il demande également des enquêtes indépendantes sur les actes de violence. Israël annonce le lancement d'un programme d'expulsion de dizaines de milliers de migrants. Quelques 40 000 migrants en situation irrégulière sont concernés, principalement des Érythréens et des Soudanais. Ceux qui acceptent de partir se verront remettre un billet d'avion et près de 3 000 euros. En revanche, ceux qui n'auront pas quitté Israël au mois de mars seront emprisonnés pour une durée indéterminée. Les Palestiniens réagissent avec colère aux dernières déclarations de Donald Trump. Sur Twitter, le président américain s'est indigné du fait que les États-Unis leur versent de l'argent, alors qu'il refuse, selon lui, de retourner à la table des négociations. Donald Trump menace donc de couper les vivres aux Palestiniens et le manque à gagner pourrait être très important. La correspondance de Marie Semelin.
Jérusalem est la capitale éternelle de l'État de Palestine et n'est pas à vendre pour de l'or ou des milliards. Voilà la réponse du porte-parole de la présidence palestinienne aux menaces américaines. Mercredi, les réactions étaient outrées dans les territoires palestiniens et Hanan Ashraoui, membre respecté de l'Organisation de libération de la Palestine, s'est scandalisé que Donald Trump ose accuser les Palestiniens des conséquences de ses actes irresponsables. Dans une série de tweets, le président américain a pesté contre les Palestiniens. À qui, écrit-il, nous versons des centaines de millions de dollars par an sans reconnaissance ou respect. Il ajoute, puisque les Palestiniens ne sont plus disposés à parler de paix, pourquoi devrions-nous leur verser des paiements massifs à l'avenir? Le président américain ne précise pas quelles aides seraient concernées, mais Nikki Haley, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, a elle évoqué un arrêt du financement de l'UNRWA, l'agence des Nations Unies en charge des réfugiés palestiniens. Avec une contribution de plus de 360 milliards de dollars, les États-Unis représentent un quart de son budget et financent via leur agence USAID des projets palestiniens pour 319 autres milliards. Le manque à gagner serait donc très important pour les Palestiniens si ces menaces étaient mises à exécution, même si d'après la Banque mondiale, l'Union européenne reste le premier financier de l'aide aux Palestiniens.
La Corée du Nord a ouvert ce matin la ligne de communication téléphonique avec la Corée du Sud. Cette annonce fait suite à la main tendue du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un le 1er janvier. Il a proposé d'ouvrir des pourparlers officiels avec Séoul pour discuter de la participation de la Corée du Nord aux Jeux olympiques d'hiver prévus début février en Corée du Sud. Alors que penser de cette diplomatie olympique? La réponse de notre correspondant à Séoul, Frédéric Ojardias.
Cette diplomatie sportive n'est pas vraiment nouvelle. Les deux Corées avaient ainsi déjà défilé ensemble aux Jeux Olympiques de 2000 et de 2004. En 1991, elles avaient même envoyé une équipe de tennis de table conjointe à des championnats du monde et les Jeux Asiatiques de 2014 au Sud avaient été l'occasion de l'envoi par Pyongyang d'une délégation politique de haut niveau. Mais ces symboles parfois forts d'amitié sportive entre les deux Corées n'ont guère eu d'impact majeur sur la situation sur la péninsule, ce qui n'a pas empêché le président sud-coréen Moon Jae-in de suggérer de créer une équipe intercoréenne pour les Jeux de Pyeongchang et d'insister pendant des mois pour que le voisin nord-coréen y envoie ses athlètes. La Corée du Sud sait bien que ses futurs pourparlers olympiques ne seront qu'un premier pas et que le Nord ne renoncera pas pour autant à son programme nucléaire, mais après des mois de tension, ce premier pas est important car il est vu comme un moyen d'aborder plus tard, à long terme, d'autres questions plus délicates. Quant aux États-Unis, ils semblent eux-mêmes ne rien attendre de ces discussions, comme le montrent les railleries du président Donald Trump et les déclarations très méfiantes du département d'État. Washington semble surtout voir dans cette main tendue une tentative de Kim Jong-un pour l'éloigner de son allié sud-coréen.
La météo, nouvelle perturbation ce soir de la Bretagne au sud-ouest. La Corse subit également vents violents et averses. Au total, 25 départements restent placés en vigilance orange. Demain, le temps sera pluvieux sur de nombreuses régions. Il y aura encore un risque de submersion sur le littoral de l'Atlantique et de la Manche. Le vent soufflera toujours fortement sur la Corse. Et dans l'est, les niveaux des cours d'eau seront à surveiller. Les températures seront douces. 5 à 13 degrés le matin, 11 à 18 tout de même l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.